Vous êtes sur le 105.4 et vous écoutez Radio Panique.
Bonjour à tous et bienvenue à cette première de l'émission Jeunes Radioactifs. Alors, en quelques mots, Jeunes Radioactifs, c'est quoi ? Eh bien, c'est un projet radiophonique mensuel qui traitera de thématiques qui touchent, concernent, impliquent la jeunesse. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à participation à tous les élèves et étudiants qui nous écoutent. Si vous souhaitez vous investir dans cette émission en tant que journaliste, animateur, chroniqueur, nous sommes actuellement occupés de monter une équipe qui sera amenée à prendre en charge la réalisation de plusieurs émissions. Alors l'idée est vraiment de faire de Jeunes Radioactifs une véritable plateforme où les jeunes pourront venir s'exprimer voilà, sur des sujets qui les intéressent. Pour en savoir plus, je vous invite d'ores et déjà à nous contacter par téléphone au 0495 93 28 08 ou en envoyant un email à l'adresse suivante jeunesradioactifs@hotmail.com. Une dernière chose, avant de nous lancer dans le vif du sujet, je tiens à remercier de vive voix les associations à l'origine de ce projet, à savoir InforJeune Laeken, Itinéraire AMO, AMO pour aide en milieu ouvert, et Radio Panique, hein, sans qui rien de cela serait possible. Alors, le thème de l'émission d'aujourd'hui sera consacré au harcèlement en milieu scolaire. Et pour en parler, heureusement, je ne suis pas seul. En plateau avec moi, j'ai Chantal Massard, donc directrice du centre InforJeune Laeken.
Bonjour.
J'ai également à mes côtés Willy Ensa, futur assistant social et intervenant au sein de, voilà, des permanences d'InforJeune Laeken.
Bonjour.
Et enfin, j'ai également le plaisir d'accueillir Logan Verven, président du comité des élèves francophones.
Bonjour.
Qui est accompagné également, on va dire, observé en tout cas par Ikram Benadi, qui est détaché pédagogique pour le CEF également. Alors, bonjour à vous quatre. Tout d'abord, pour les auditeurs peut-être qui ne connaissent pas vos services, vous pouvez peut-être les présenter en quelques lignes, vos missions, vos projets ?
Oui, alors en quelques mots, InforJeune, c'est un service qui a pour vocation de répondre aux questions des jeunes. Ça a l'air tout bête. Et donc on est ce qu'on appelle communément des généralistes de l'information. Donc on est susceptible de répondre à des questions aussi variées que des questions qui ont trait au droit scolaire, à l'emploi, au job ou encore à la vie affective et sexuelle. J'en passe. Donc tous les thèmes qui intéressent la jeunesse, en première ligne, nous sommes susceptibles de répondre à leurs questions. J'ajouterais qu'on a quand même, du fait de l'expérience, une expertise assez importante en droit scolaire et c'est à ce titre qu'on intervient aujourd'hui.
Merci Chantal, donc ça c'était InforJeune Laeken. Et donc Logan, qu'est-ce que le CEF ?
Alors le CEF, c'est le comité des élèves francophones. Donc nos missions principales sont la défense des droits et le relais des revendications des élèves auprès des différents acteurs de l'enseignement, donc autant politique qu'à la Fédération ONU Bruxelles ou des directeurs d'école. On peut par exemple soutenir les élèves s'ils ont des difficultés à rencontrer avec leur direction dans leur école ou participer à d'autres mobilisations.
D'accord, ok. Merci pour ces précisions. Alors, au cours de cette émission, on va donc se pencher sur cette thématique du harcèlement avec quand même cet angle particulier qui est le milieu scolaire. Et donc, l'idée, ce sera de saisir un peu la portée de cette problématique, de pointer déjà les intervenants qui peuvent aider dans ces cas de figure. Et enfin, on va essayer aussi d'aborder le rôle de l'école justement face à ce sujet du harcèlement. Alors, déjà harcèlement, donc qu'est-ce qui se cache derrière cette problématique, ce sujet ? À partir de quel moment on peut parler de harcèlement ? Chantal peut-être ?
Oui, alors le harcèlement, on peut dire qu'il est déjà défini quelque part dans le décret mission. Et ça suppose, pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait une répétition, une pression psychologique par exemple, qui soit exercée par un élève ou parfois par l'école sur un autre élève. Donc ça, ce serait la notion de harcèlement. Donc deux éléments importants, la pression, la répétitivité et le fait qu'on se trouve souvent devant un triangle, l'agresseur, la victime et les spectateurs qui peuvent potentiellement donner malheureusement plus d'éclat, je vais dire, à l'acte, à l'harcèlement lui-même.
D'accord. Parce que effectivement, hein, quand on fait par exemple des recherches sur la situation du harcèlement en Belgique et essentiellement du côté francophone, on tombe parfois sur des chiffres assez interpellants. Par exemple, une enquête réalisée par l'UCL parle de 1 jeune sur 3 entre 11 et 15 ans impliqué dans une situation de harcèlement. Qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres un peu alarmants? Est-ce que c'est justement ces trois dimensions que vous évoquiez? Est-ce qu'il y a...
Oui, j'imagine. En tout cas, ce que nous pouvons constater, c'est que... Alors, est-ce que le phénomène est plus connu aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais c'est que de plus en plus de jeunes s'adressent à nous pour évoquer des situations de harcèlement, que ce soit à l'école même ou alors à travers aussi les médias sociaux.
D'accord. Et mais j'imagine, comme vous le disiez, peut-être que le fait que le cyberharcèlement, par exemple, et voilà une part un peu visible de cette difficulté que rencontrent les jeunes, voilà, ça suscite un certain, en tout cas, émoi peut-être des autorités, en tout cas une attention un peu plus poussée. Est-ce que vous avez l'impression, voilà, que ce phénomène a évolué? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a une attention plus importante portée ou une tolérance de moins en moins élevée par rapport à cette difficulté? Je ne sais pas qui veut rebondir là-dessus, Logan ou Willy.
Je pense que par rapport donc à ce que Chantal disait, à la possibilité d'avoir trois acteurs, donc le harceleur, la victime et les témoins, donc dans cette relation triangulaire. On peut ajouter aujourd'hui le fait qu'il arrive quelquefois qu'un seul élève ait les trois casquettes, on va dire, et donc peut être aussi bien harcelé que devenir harceleur par la suite. Et donc du coup, je pense que ce phénomène-là s'accentue de plus en plus, et avec, comme vous disiez, le cyberharcèlement qui est de plus en plus connu, ça accentue donc la connaissance sur le sujet du harcèlement. Enfin, c'est de plus en plus médiatisé en tout cas, et donc voilà.
Ok, bah merci beaucoup. Bah donc voilà, hein, voilà pour le harcèlement. En tout cas, on comprend les dimensions qui sont comprises dans ce phénomène et à partir de quel moment on peut véritablement parler de cas de harcèlement. Alors je vous propose peut-être, en guise, on va dire, d'illustration, d'écouter un morceau du chanteur Kin V qui s'intitule Petite Emily et qui retrace donc voilà le parcours de cette jeune demoiselle.
Petite Emily, 6 ans et demi, et l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux qu'on sorcelle. Pour ceux de sa mère, elle en était la prunelle. Ils ne pouvaient pas vivre l'une sans elle. Leur relation était devenue plus que fusionnelle. Qu'elle est déménagée, fini la campagne isolée. Elle vit maintenant en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis. Elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie. Car tout va pour le mieux pour petite Emily. Adolescente enfermée au grand dam de maman. Fini le joli visage souriant. C'est une petite fille maussade qu'elle est devenue à présent. Faut dire qu'au collège tout avait changé. Trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée. Tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment
paix.
Donc voilà, c'était Petite Émilie du chanteur Kin V. Donc ben voilà, une présentation un peu dramatique voilà, d'un cas de harcèlement. Et ben je vais voilà, du coup en profiter. J'imagine que dans les permanences Info Jeunes, vous êtes confrontés à ce type de situation, à ce type de dossier. Est-ce que vous pouvez peut-être, voilà, au travers un cas concret, nous expliquer un peu quelle intervention, quelles actions vous mettez en place ?
Oui, alors dans nos permanences à Forges-en-Lacune, on a reçu un petit Dimitri qui était victime d'harcèlement. Donc avec le petit Dimitri, ce qui était assez grave, c'est qu'il n'était pas conscient d'être harcelé. Ça a commencé dans son ancienne école où il a commencé, c'était pour une histoire d'odeur corporelle. Ça a commencé par des petites plaisanteries et puis ça c'est devenu plus régulier, plus permanent, tous les jours, tout le temps. Donc, il a cessé d'aller à l'école. Ses examens de juin, il les a ratés. Et à ce moment-là, il a décidé de changer d'école. Mais malheureusement pour lui, quand il a changé d'école, quelques-uns de ses camarades l'ont suivi dans sa nouvelle école. Et ça a de nouveau recommencé. Mais cette fois, il a pris la résolution d'aller voir la direction. Le CPMS est intervenu. Mais quand il est intervenu, en fait, ça s'est encore plus amplifié puisque la quasi-totalité de ses camarades ont deviné que c'était lui, c'était de lui qu'on parlait. Et donc ça s'est amplifié non plus seulement à sa classe, mais à l'école en général. Donc avec Dylan, normalement, les jeunes, on les oriente vers des AMO où on prend contact avec l'école. Mais là, il ne voulait pas, ça a tellement été dur pour lui qu'il ne faisait plus confiance ni aux institutions, ni à plus personne, à vrai dire. Donc il y a eu des conséquences aussi sur lui, enfin sur sa famille, puisque Dimitri est devenu très violent à la maison, que ce soit à la maison avec ses frères et sœurs ou avec sa mère. Et donc finalement c'est sur la longue, donc il a préféré continuer à venir dans nos bureaux, où il voulait juste en parler finalement, donc il en a parlé, à force de parler, il a fini par retourner à l'école. Et au jour d'aujourd'hui, ça se passe plutôt bien.
D'accord. Théoriquement. Donc on comprend bien que là, vous avez été vraiment un espace d'écoute et un espace de relais, justement, pour...
C'est exactement ça, voilà. C'est plus ça.
Ok, et donc je tiens aussi à préciser que voilà, Dimitri, Dylan, ce sont bien des noms d'emprunt. Hein, on est sous le couvert de l'anonymat pour ce qui est d'Info Jeunes. Donc, je ne sais pas, Chantal, peut-être
Oui, peut-être aussi préciser qu'une difficulté qu'on rencontre régulièrement quand des jeunes viennent nous voir, c'est la question, je vais dire, du diagnostic. Donc, on a un jeune qui est venu, un jeune garçon de 12 ans, qui est venu avec sa maman, et elle avait signalé à l'école à plusieurs reprises que son fils se faisait harceler. Et donc, on a pris contact avec l'école, mais pour l'école, il ne s'agissait pas de harcèlement. Il nous disait, mais non, ce sont des disputes entre enfants, le petit, on va dire Brian, il est arrogant, et c'est pour ça qu'il recueille une certaine violence de ses camarades. Et donc, on a beaucoup discuté avec la maman, avec l'école, on voyait que l'enfant allait mal. Il était suivi, heureusement, par son médecin de famille et par un psychologue. Et pour sortir de cette situation, parce que c'était un jeune qui était dans le premier degré et qui ne pouvait pas changer non plus d'école comme ça, eh bien, on a fait suivre le rapport médical et le rapport du psychologue auprès de l'inspection. Et à ce moment-là, l'école a dû prendre en considération la parole de la maman et du jeune. Et elle a permis au jeune, alors, de quitter l'établissement. Ben, aujourd'hui, il est ailleurs et il n'a plus de problème. Donc voilà, ça, une des difficultés peut vraiment être une difficulté quant au diagnostic. Et il y a des écoles, pas toutes, je ne vais absolument pas faire de généralité, mais qui, quand on dit qu'il y a du harcèlement dans l'école, ben, ils se disent « oulala, on va avoir la réputation d'être une mauvaise école ». Et donc, parfois, il y a du déni face au phénomène qu'il rencontre. A contrario, on a rencontré aussi un jeune qui est venu chez nous en disant « voilà, je vais être exclu pour des faits de harcèlement, est-ce que vous pouvez me défendre ?» On dit « ok, on va étudier le dossier avec toi » et on lit le rapport d'incident. Et dans ce rapport d'incident, ce qui est décrit, c'est véritablement une dispute. Des enfants qui se disputent et qui s'insultent à la récréation. Et c'est un fait isolé. Et l'école va d'ailleurs punir les deux protagonistes, celui qui est décrit comme étant la victime et celui qui est décrit comme le harceleur. Et donc, on va à l'école dire, écoutez, à notre sens, il ne s'agit pas d'harcèlement, il n'y a pas matière à exclusion. Et donc, voilà, on est dans cette difficulté-là et on a été entendu par l'école. Mais donc, l'école elle-même, je vais dire, ne diagnostiquait pas. Elle disait qu'il y avait eu harcèlement, mais si on mettait ça au regard des faits, ben, il n'y en avait pas, puisqu'il punissait la victime et puisqu'il n'y avait pas d'actes répétitifs. Mmh.
Bah ouais, on comprend toute la difficulté aussi de voilà, définir ce qu'est un harcèlement, toutes les dimensions que ça implique. Hein. Ce n'est pas uniquement des cas de violence, ça peut être simplement des moqueries, ça peut être voilà, par rapport au matériel également, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est parfois pas évident à cerner. Alors peut-être très rapidement, Logan, j'imagine que de par vos missions aussi, vous avez été confronté ou impliqué dans des situations voilà, qui...
Oui, alors nous en fait, on a eu un exemple de cas de harcèlement dans une école bruxelloise. Qui a découlé par la suite. Donc les élèves ont voulu réagir et nous ont donc contactés. Et donc du coup, pour le moment, on va bientôt lancer une campagne contre le harcèlement et la lutte du harcèlement à l'école.
Ok, super. Bah, je propose justement peut-être qu'on reparle plus longuement de cette campagne un peu plus tard dans l'émission. Ici, nous allons écouter un extrait d'entretien. Hein, donc, la communauté française met bien évidemment en place une série de plans d'action hein, pour analyser, comprendre et mettre en place une série de projets en lien avec la violence, le décrochage scolaire et le harcèlement. Et ici, il s'agit donc de la ligne d'écoute école et parents, et nous allons donc entendre Arnaud Fontaine qui est l'un des répondants et qui nous précisera donc ce qu'est ce fameux plan PAGAS dans lequel il s'inscrit. Voilà.
Alors PAGAS, comme ça fait un peu barbare, mais ça veut dire plan d'apprentissage visant à garantir un apprentissage serein. Et donc c'est un plan qui a été mis en place par le gouvernement de la communauté française en 2009 et qui comprenait toute une série d'actions visant à garantir un apprentissage serein. Donc c'est toutes des actions qui sont liées au problème de la violence à l'école. C'est pas lié à une situation de violence particulière ou à une recrudescence de violence, mais c'est plutôt une réflexion qui avait été menée. Et donc le gouvernement a voté ce plan d'action, et parmi ce plan d'action il y avait donc il y avait plusieurs choses. Il y avait la mise en place d'un observatoire de la violence, il y avait la réalisation d'un plan d'urgence pour les situations extrêmes, et il y avait la mise en place d'un numéro vert également. Donc voilà, le numéro vert pour les parents qui s'appelle École et Parents, il existe depuis 2012. L'équipe, elle est composée de 5 personnes qui ont des profils divers. Il y a des psychologues, il y a eu des juristes, donc il y a des profils assez variés. Mais toutes ces personnes-là ont une formation à l'écoute. Et donc leur public, en tout cas pour le numéro vert École et Parents, ce sont les parents d'élèves pris au sens large. Hein, donc ça peut être un frère, un oncle, un grand-parent qui est interpellé par une situation de violence. Donc évidemment, ça c'est le cœur, c'est toujours des situations de violence qui sont vécues à l'école, mais vécues forcément indirectement par les parents, et qui nous appellent pour parler de ces situations de violence. Alors l'accompagnement qu'on propose, c'est avant tout une écoute. Ça je pense que c'est le point de départ, et en même temps c'est ce qui est sans doute le plus important. Mais donc on va écouter les parents, nous parler de ce qu'ils vivent et ce que vivent leurs enfants. Et dans un second temps, si ça s'avère nécessaire, on va les informer. C'est-à-dire qu'on peut les rediriger vers un service, on va les informer sur une procédure, on va leur donner quelques explications, on pourrait leur donner pourquoi pas des conseils de lecture, des choses comme ça, mais toujours en fonction de la demande qu'ils vont exprimer. Maintenant, les questions de harcèlement moral, c'est assez complexe et on a du mal à en sortir. Parfois, on a des situations qui durent depuis des années où les équipes éducatives sont courantes et n'arrivent pas malgré tout à trouver une porte de sortie, si je puis dire. Et donc là, c'est vraiment des moments où il faut faire appel à des personnes externes. Pas parce que les équipes éducatives sont incompétentes, mais parce qu'elles ont beaucoup de choses à faire. Et donc, avoir des gens dont c'est la spécialité, ou en tout cas qui ont déjà rencontré ce type de situation, ça c'est vraiment indispensable. Et donc ça c'est aussi l'objet du numéro vert, c'est de dire, j'entends bien que dans ce que vous me racontez, on est dans une situation qui semble inextricable, et donc c'est le moment de faire appel à l'extérieur. Et c'est ce que font d'ailleurs les parents, puisqu'ils nous appellent. Donc ils comprennent bien que là ça bloque, quoi, qu'il y a un moment donné, on n'a plus d'armes, et les équipes éducatives, avec toutes leurs qualités, à un moment donné, n'ont plus d'armes non plus. Je me souviens d'une maman qui me parlait de sa petite fille et elle m'expliquait que sa petite fille s'était plaint auprès d'elle d'une situation difficile avec une autre élève et que sa maman avait eu finalement une réaction que beaucoup de parents pourraient avoir, et c'est naturel aussi, de lui dire bah, « tu dois te défendre, tu dois un peu te débrouiller, etc. » Et que pour finir, elle s'était rendue compte que c'était pas une très bonne idée de lui dire ça parce que sa petite fille... finalement, était dans une arrivait à une situation où elle était passive, où elle acceptait le harcèlement, où elle finissait par trouver ça peut-être pas normal, mais pour elle, la meilleure situation, c'était de se laisser faire, en fait. Elle n'avait pas pu prendre... Et donc, sa maman regrettait d'avoir agi comme ça, et elle me parlait d'un moment où elle était à table avec sa petite fille, et elle me disait, il y a de grands moments de silence. Et cette expression qu'elle a eue, il y a de grands moments de silence, c'était vraiment une expression terrible. Et je trouve qu'elle disait vraiment tout le désarroi de cette maman qui avait essayé avec... plein de bonnes intentions et qui se rendait compte qu'elle était dépassée et qu'elle n'y arrivait plus, qu'elle ne comprenait plus ce qui se passait, quoi. Et donc, voilà. C'est une situation qui touche et qu'on est et là, mais qu'on est content d'entendre parce qu'elle peut quand même le dire quelque part, qu'il y a des grands moments de silence. Finalement, elle a brisé le silence en nous appelant et j'espère qu'elle a pu trouver des pistes pour sa petite fille.
Voilà, donc c'était une intervention de Arnaud Fontaine, donc répondant de la ligne École et Parents. Alors première chose, je vais préciser ce fameux numéro, donc c'est le 0800 95 580. Donc on comprend bien qu'à travers voilà, ce plan d'action PAGAS, il y a eu par exemple différentes lignes téléphoniques qui ont été voilà, mises en place et dont d'autres qui s'adressent effectivement aux professionnels, par exemple de l'enseignement, la ligne assistance école au 0800 20 410 et bien sûr aussi d'autres numéros qui eux s'adressent plus particulièrement voilà, aux jeunes qui seraient voilà, victimes en tout cas de situations de harcèlement et notamment la ligne écoute enfant numéro 103. Alors, voilà, je me retourne un peu vers vous. Est-ce que, on l'entend au travers un peu cette interview et cet exemple qu'il évoque, est-ce que vous pensez que le harcèlement est encore trop banalisé? Et deuxième question, est-ce qu'il, pour vous, il manque encore des moyens pour voilà, briser ce fameux silence évoqué aussi par Arnaud Fontaine? Je me retourne Chantal, Willy, Logan. Est-ce que l'un de vous souhaite rebondir là-dessus?
Bah, je pense que les moyens ils sont là, enfin, les structures sont présentes. Maintenant, peut-être pas assez connu ou pas assez accessible sûrement, mais les parents ont peut-être peur de contacter parce que en contactant ces structures-là, elles acceptent le fait que leur enfant puisse être harcelé ou dans une situation d'harceleur. Donc du coup, c'est en quelque sorte remettre en question son éducation. Et donc au niveau du parent, c'est peut-être un peu délicat. Enfin, en tout cas pour le moment, il a peut-être peur de s'avancer vers ces structures présentes.
D'accord.
Oui, et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, briser le silence, c'est fondamental. Donc vraiment, essayer d'être à l'écoute. Et c'était frappant dans le témoignage précédent, c'est qu'on proposait à l'enfant des solutions, finalement, qu'il ne peut pas utiliser, qu'il n'arrive pas à utiliser, et on risque de le culpabiliser encore plus. Enfin, il risque de se sentir encore plus isolé. Et je comprends bien ce qu'a fait la maman. Hein. On va faire ça de prime abord comme parent. On va lui dire, mais essaye de te défendre, etc. Mais je crois qu'il faut écouter plus loin encore pour voir si c'est possible. Est-ce que tu as essayé de te défendre? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi? Essayer de poser les bonnes questions pour bien décrypter. Et alors aussi, tu utilisais le terme Lionel de banalisation. Il faut trouver, comment dire ça, un espèce de juste milieu. Il ne faut pas systématiquement parler de harcèlement quand ce n'est pas le cas. Hein. J'ai donné un exemple où il y avait une école qui pointait le harcèlement parce que c'était, s'il y avait harcèlement, elle pouvait exclure un élève. Et on n'était vraiment pas dans une situation de cet ordre-là. Et à contrario, Logan disait, pour les parents, c'est difficile de dire, ah, mon enfant est harcelé. On se dit, ah, mais je ne l'ai pas bien éduqué. Ou enfin, bon, voilà, il y a des choses comme ça qui viennent. Pour l'école aussi, c'est difficile parce que elle doit se remettre en question et elle doit dire bah tiens il y a un problème problème en mon sein, ce qui peut arriver partout, hein, je veux dire. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des questions de réputation, parfois, on peut se dire, oulala, non, le harcèlement, ça n'existe pas chez moi. Donc, il faut une attitude un petit peu volontaire et courageuse pour dire, ok, là, il y a un souci, eh bien, je vais chercher les intervenants qui vont me permettre de faire face à la question. Mais je pense qu'il est important aussi, dans ce que pointait tout à l'heure Willy, il faut qu'on assure un suivi des interventions. Parce que s'il y a une intervention sur le harcèlement et puis qu'on ne s'inquiète pas de savoir ce qu'il est advenu de la situation, de la dynamique dans la classe, ça peut poser problème. Et donc je crois qu'il faut vraiment traiter le processus de harcèlement.
Ok. Mais écoutez, je propose peut-être qu'on revienne justement sur ces intervenants hein, qui peuvent être sollicités dans des situations de harcèlement, entre autres. Et suite à une petite pause musicale, d'abord nous allons ici entendre le groupe Stupéflip et son morceau « Le spleen des petits ».
Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chances de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, ils s'écrasaient devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chances de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Les feuilles mortes sont tombées, couleur ocre orange. Absorbé par cette image, le petit marche dans les pots d'orange. Sa cagoule gondole sous la pluie toute trempée. Dans sa poche des billes, quelques kiris. Écrasé, l'en a ras-le-bol de ras-le-bol, il est frigorifié. L'odeur humide des feuilles mortes qui lui chatouille le nez. Il est tout petit, pourtant le spleen a fait son entrée. Sombre après-midi et dans sa tête tout s'est embrouillé. Il sait pas si maman c'est à 4h ou à 5h30. Il sait pas pourquoi la dame est méchante à la garderie. Il emporte avec lui quelques bons becs et des chocs aux rêves. L'écorce des arbres est trop dure pour faire couler la sève. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Le ciel s'obscurcit, il croque dans un pépiteau. Il fait presque nuit, une lumière glauque dans le préau. Ça souffle, alors il s'en mitoufle. Il sent même plus le vent qui siffle. Les poings serrés dans ses moufles, il morfle. Pense un peu à Goldorak, des miettes de pain au chocolat durci dans son anorak. Qui veut s'échapper, voudrait que maman vienne le chercher. Il cherche l'entrée, priant qu'elle l'ait pas oublié. Dans la cour, ses crades, odeur d'orange et de pourriture. Les feuilles mortes glissantes, gluantes sous ses chaussures. Les cris des autres l'agressent, serre les dents et snob les costauds. Il est 7h30, toujours personne dans le préau. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Il a triste mine quand il déboule à la cantine. Les autres petits font des batailles avec des clémentines. Le chef de table, c'est un grand blond qui l'embête. Celui qui dans les arbres lui avait perché sa casquette. Il s'acharne sur le petit qui lui a jamais rien fait. À la récré ses moqueries, même à la balle aux prisonniers. C'est la tête de dur, le genre qu'on court sans le parc. Avec un pull trop grand qui a tellement peur des clowns au cirque. À l'école, pour lui c'est l'humiliation. En sixième ce sera The Wall et commencera la sélection. Il serre encore les dents mais tiendra pas dans cette violence. Son petit cœur était pur mais maintenant il crie vengeance.
Alors ben oui, il crie vengeance le cœur. Ben écoutez, on va peut-être justement réfléchir, ben voilà, sur les moyens d'action, sur les intervenants, qui peuvent aider, accompagner ces petits qui ont le spleen à l'école. Chantal, on t'écoute.
Oui, alors donc on l'a dit, nous on peut accompagner lorsqu'il s'agit de prendre des contacts avec l'école ou lorsqu'il y a des aspects plus juridiques à prendre en charge, mais ce qu'on ne fait pas du tout, c'est un suivi psychosocial. Ça, c'est pas du tout dans notre domaine de compétence, et donc quand la question se pose, on renvoie vers des AMO. Donc c'est de l'aide en milieu ouvert, ce sont des structures qui peuvent aider à prendre des contacts avec l'école et à suivre alors le jeune encore plus dans une écoute active. Alors il y a des éducateurs aussi qui peuvent être de bons relais. Les CPMS, à certains moments, sont habilités à intervenir sur ces questions. Et il y a aussi, je pense, aux médiateurs scolaires. Ce sont des intervenants, plus les intervenants qu'on a déjà cités préalablement, qui peuvent être tout à fait utiles dans l'approche de cette problématique.
Voilà, on comprend bien que donc cette écoute hein, de première ligne représentée au sein même des établissements scolaires et ces aides plus externes. Logan, je ne sais pas si vous souhaitez peut-être compléter un peu ce qui a été dit.
Par rapport donc à toutes les structures qui existent, les AMO, l'InfoJeune, les médiateurs scolaires, etc., ils ont peut-être une difficulté qu'ils rencontrent dans le sens où il n'est pas toujours facile de retrouver ces services. Et donc du coup, ce qu'on considère nous au CEF, c'est qu'il faudrait informer beaucoup plus les élèves et les parents des structures existantes, afin que ceux-ci puissent réagir plus rapidement quand un cas de harcèlement se présente. Et c'est un peu dans ce sens-là que notre campagne tentera d'aller, en centralisant un peu toutes ces organisations, afin de faciliter
qui ne se perd pas dans toutes ces strates, toutes ces aides possibles. Ok. Dernière petite chose, justement, ça rebondit un peu sur ce que vous venez d'évoquer. Est-ce facile pour tous ces services de collaborer? C'est vrai qu'on entend une pléiade de collaborateurs envisageables. Est-ce que par exemple vous, InfoJeune, vous avez constaté une difficulté par rapport à faciliter ces synergies, cette transmission d'informations entre plateformes?
Mais nous, à InfoJeune, parce que on travaille sur le droit scolaire de manière plus générale, on a vraiment dans ce travail-là des partenaires privilégiés qui sont les AMO, et c'est vraiment des structures qui sont tout à fait adéquates pour écouter, réorienter le jeune si un problème de cet ordre se pose. Il est beaucoup moins fréquent, par exemple, que nous prenions contact en direct avec des CPMS, c'est plutôt alors la demande de l'école. Mais ça ne veut pas dire que ces partenaires ne sont pas habilités à faire un travail intéressant. Simplement, il y a un partenariat, une collaboration de confiance qu'on a avec beaucoup d'AMO qui marque notre travail, quoi.
Ok, merci Chantal. Alors, nous allons enchaîner avec une nouvelle intervention. Cette fois, ce sera Benoît Galland, qui est donc professeur chercheur à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation à l'UCL, et donc il va un peu nous amener à ce dernier point de réflexion, qui est le contexte scolaire. Est-il un lieu qui peut vraiment devenir un lieu de prévention de situations de harcèlement? Quelles sont un peu les choses qui doivent être amenées, changées, ajoutées pour que ce rôle soit vraiment envisageable. Je vous invite donc à écouter Benoît Galland.
Du harcèlement, il peut y en avoir en fait dans plein de contextes. Comme c'est un phénomène de groupe, le harcèlement, forcément, l'endroit par excellence où les jeunes sont en groupe, c'est l'école. Donc il y a de fortes chances que ça arrive à l'école. Dans la façon dont l'école fonctionne, il y a deux choses qu'on peut souligner. La première, c'est le harcèlement est vraiment lié à quelque part à un moment, une dynamique de hiérarchie dans le groupe, et donc de place de dominant et de dominé, ou de reconnaissance, d'avoir un statut dans le groupe. Et donc, ce que les travaux de recherche montrent, c'est que plus dans l'école, on va mettre l'accent sur la hiérarchie, par exemple des filières, ou par exemple de ceux qui réussissent et de ceux qui échouent, et plus on va mettre l'accent sur la comparaison, il y en a qui sont meilleurs en ci, meilleurs en ça, etc., plus on va créer un climat qui va favoriser le harcèlement, puisqu'on est dans la même dynamique de hiérarchie, de dominance, etc. Et donc là, on a vraiment des travaux qui montrent ça, et aussi qui montrent qu'il y a probablement plus de harcèlement dans les systèmes scolaires, où il y a plus d'inégalités scolaires. Donc moins on a un système où on arrive à donner le même bagage, ou en tout cas un bagage minimum à tous les élèves, plus on est dans un système où, en effet, il y a des inégalités, donc il y a des tensions, il y a de la compétition, et donc on a du harcèlement. Donc c'est toujours cette rencontre entre des caractéristiques des personnes et un contexte qui fait qu'on a du harcèlement. C'est jamais parce que tel ou tel jeune a telle caractéristique que d'office il va devenir soit victime, soit harceleur. Qu'on est quand même dans un système scolaire, un peu comme en France, où on met quand même fort l'accent, dans beaucoup d'écoles, on met fort quand même l'accent sur la transmission de la matière, et pas tellement sur le fait que l'école c'est aussi un lieu de vie, c'est un lieu où on apprend à vivre ensemble et où on apprend la citoyenneté, pas avec un cours de citoyenneté, mais avec des rapports sociaux qu'on construit à travers des instances qui sont dans l'école, des lieux de parole, des prises de responsabilité et des choses comme ça. Dans ce sens-là, oui, on pourrait dire que finalement, peut-être que le déficit de sociabilité ou de citoyenneté dans la vie quotidienne de l'école telle qu'elle est organisée, où finalement les élèves n'ont pas grand-chose à dire à ce qui se passe au quotidien, ils sont pas très, c'est pas une gestion très participative souvent, pas très impliquante, y compris dans la gestion des incidents, des conflits, etc. En tout cas, ça ne crée pas un espace de prévention contre ça, quoi. Il y a vraiment une question de mettre des gens dans un groupe sans trop se soucier de comment le groupe s'organise et comment les relations se passent dans le groupe. Vous risquez fort d'avoir des problèmes de harcèlement, de boucs émissaires qui vont apparaître. Donc il y a vraiment quelque chose qui est propre à la socialisation dans un groupe. Quand on la laisse aller à elle-même, il peut y avoir des dérives. Ça peut devenir la loi de la jungle, en fait. Le harcèlement, c'est quelque chose qui s'installe dans la durée. Donc quand on va traiter le problème, croire qu'on va trouver une solution rapide à court terme, c'est un peu illusoire. Mais l'école est plutôt pensée comme ça, la discipline à l'école. On a un problème, on donne une sanction, c'est réglé, et on passe à la suite. Comment est-ce qu'on va accompagner dans la durée ce genre de situation? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut réfléchir au niveau de la prévention. Et alors, plutôt dans l'idée de développer, aider les jeunes, que ce soit les victimes en termes d'affirmation de soi, que ce soit les agresseurs, en disant comment je peux me faire reconnaître, arriver à mes fins autrement que par l'agressivité, c'est former à des compétences qu'on appelle des compétences sociales et relationnelles souvent. Donc c'est dire, ok, voilà, comment je peux gérer un conflit? Comment je peux dire que je ne suis pas d'accord sans tout de suite passer par la violence? Comment je peux aussi aller négocier, voire revendiquer, sans agresser l'enseignant directement à la face de tout le monde? Enfin bon... Comment je peux apprendre un peu à mieux gérer mes émotions quand je suis en colère, quand je suis anxieux? Voilà, c'est toutes des compétences qui sont en fait utiles dans la vie en général et cerise sur le gâteau qui améliore aussi l'apprentissage scolaire. Donc peut-être que passer un peu de temps à l'école à travailler là-dessus, ça peut être un plus pour tout le monde.
Donc voilà, une intervention de Benoît Galland. Alors il y a énormément, je veux dire, de pistes, d'éléments qui ont été avancés. Je crois qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'en débattre en longueur. Je vais, pour peut-être rester un peu plus dans le concret, me tourner vers vous, Logan. Pour vous, qu'est-ce qui manque, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il faudrait changer au système scolaire pour en faire un véritable lieu de prévention?
En tout cas, je pense déjà d'une manière plus large. Il faut savoir que dans d'autres pays, des campagnes nationales ont été menées, comme en France ou en Angleterre. Alors qu'en Belgique, il n'y a tout simplement pas eu ce genre de campagne. Et je pense que ça peut déjà être une source de solution non négligeable pour faire connaître le problème du harcèlement. Aussi, je pense qu'aujourd'hui, l'élève a du mal à faire appel à une structure d'aide, qui, comme on l'a dit, existe déjà, de par peur d'être stigmatisé encore plus, donc comme le cas de Dimitri, où l'aide du PMS dans la classe n'a pas été une aide, mais a aggravé la situation pendant un temps. Et donc c'est aussi, je pense, un problème à essayer de régler, le fait de ne plus être stigmatisé par le fait de fréquenter telle ou telle organisation d'aide.
D'accord. Merci. Chantal?
Oui, moi je voudrais revenir sur ce que disait Benoît Galland, quand il nous dit en gros, mais il n'y a pas vraiment de profil, mais il y a des rapports dominants-dominés, et ces rapports finalement rencontrent un écho particulier dans un système scolaire profondément inégalitaire. Alors ça c'est un peu un des chevals de bataille d'InfoJeunes, c'est justement d'essayer de pourfendre cette inégalité et de rappeler effectivement que ce n'est pas normal et que ce n'est pas une fatalité. Donc brièvement, si on prend les enquêtes PISA, on voit qu'on a le système quasi le plus inégalitaire de tout l'OCDE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon qu'on soit issu d'un milieu favorisé ou d'un milieu populaire, l'écart de compétences qui sera acquis en milieu favorisé ou en milieu populaire, eh bien, c'est chez nous qu'il est quasi le plus grand. Et donc, je crois qu'il y a des enseignements à tirer du langage populaire qui parle d'école poubelle. Tout le monde a entendu parler de ça. Comment voulez-vous que des jeunes aient une bonne estime d'eux-mêmes quand ils sont stigmatisés de cette manière-là, quand ils se vivent comme des déchets. Forcément, à partir du moment où on est dans un système aussi dual, eh bien, ça crée des tensions, des violences. Et il serait aussi bénéfique que l'école soit plus un lieu de collaboration qu'un lieu de compétition. Parce que la compétition, eh bien, elle vient aussi renforcer ce climat de non-sérénité. Ça a été dit par Benoît Galland, mais je pense que c'est vraiment, vraiment important. Donc, ce serait chouette que les écoles soient des écoles plus citoyennes. Ça permettrait aux jeunes de s'y sentir mieux et d'être peut-être eux-mêmes plus citoyens.
D'accord, merci Chantal. Ben on comprend bien effectivement que l'école ne peut plus être qu'un simple lieu de transmission, ce qui est déjà bien évidemment le cas pour de nombreux établissements. Hein. Et justement, je me demandais, est-ce que ces écoles ont les moyens, je veux dire, d'agir par rapport à ces questions, ont les moyens d'évoluer dans ce sens en même temps, on va dire que la société, quoi, qui évolue également et qui implique d'autres demandes, d'autres besoins, d'autres problématiques.
Il y a des écoles qui prennent des initiatives. Hein. Il y a des écoles qui, avant d'insérer dans leur règlement disciplinaire des sanctions, etc., réfléchissent avec les élèves sur la définition du harcèlement et pointent les difficultés qui se passent en classe. Je pense qu'il est vraiment important d'essayer d'amener les élèves à se situer eux-mêmes par rapport à ça. Dans le cas de Dimitri, par exemple, les élèves qui harcelaient Dimitri, eh ben, ils ont eu beaucoup de mal. Après, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train d'harceler ce jeune. Mais ça a été un processus que de les amener à en prendre conscience. Et donc, il est vraiment important que chacun des trois acteurs qu'on a mis en exergue prenne conscience de son rôle. Idem pour les spectateurs. Ça peut être très important qu'ils se positionnent autrement.
Alors, merci. Très rapidement, hein, parce que c'est vrai que le CEF a mis en place différentes actions, différentes campagnes de sensibilisation. Peut-être, Logan, vous pouvez nous en parler un peu plus en longueur.
Oui, je pense d'abord, juste pour revenir sur, l'école a-t-elle les moyens, je pense qu'en plus de l'école, le monde associatif, justement, peut intervenir dans ce genre de sensibilisation et de prévention. C'est donc l'un des axes que prône le CEF, et c'est pourquoi on développe des partenariats par exemple avec les chefs, donc les représentants contre la défense des homosexuels, etc., ou le MRAX, donc le mouvement anti-racisme et anti-antisémitiste et xénophobe. Donc du coup, nous on tente de développer ces partenariat afin d'aller dans les écoles pour promouvoir justement ces formations, pour faire connaître le harcèlement, pour ne plus que ça soit un sujet tabou en tout cas. Dans nos actions concrètes à nous, on a donc élaboré une enquête en fait qui va tenter de dénoncer dans un premier temps les manquements dans les établissements dans les établissements scolaires ainsi que dans la société en général, et dans un second temps on va tenter de répondre à ces manquements grâce à cette enquête là et donc on a aussi élaboré des capsules vidéo qu'on lancera très prochainement au lancement de la campagne, élaborées par les élèves et en collaboration avec le CEF. Et d'autres formations suivront au cours de l'année, ainsi que d'autres actions.
Ok, merci. Merci pour ces précisions. Alors, il existe hein, bien évidemment toute une série d'établissements qui mettent en place à leur niveau des projets, des initiatives pour combattre la violence, les cas de harcèlement, la discrimination, enfin bref, toutes les difficultés qu'on a évoquées. Et donc, je vous propose d'en écouter un très bel exemple. Il s'agit donc du projet Marcheur de la Paix, qui a été inspiré par une campagne néerlandophone Move Tegen Pesten, et qui a été, voilà, chapeauté, initié par Sabine Dano, qui est professeure donc de néerlandais à l'Athénée Robert Cato.
Alors, les Marcheurs de la Paix, c'est un groupe d'élèves qui a grandi suite à la première représentation du Move Tegen Pesten ici, Place Poulard, donc il y a 2 ans. Nous l'avons fait pour la première fois et suite à cela, il y a un certain nombre d'élèves qui se sont dit « Tiens, on voudrait mettre en place à l'Athénée un projet qui essaie de rendre la vie des élèves un petit peu plus paisible, agréable. » Et donc voilà, de là, Marcheur de la Paix. Au départ, c'est un projet qui est né suite à un cas d'un élève que moi j'avais en classe. Et je me suis dit, tiens, il faut faire quelque chose. J'ai fait un petit peu de recherche et je n'ai rien trouvé du côté francophone. Rien du tout. Comme je suis néerlandophone, bon, je m'intéresse quand même encore beaucoup à ce qui se passe ce côté-là. J'ai trouvé le collectif Kies Kleur tegen Pesten, qui est très très actif en Flandre. Et donc, c'est de là, je dis, tiens, c'est intéressant, c'est ludique, c'est amusant, c'est présenté d'une façon qui va parler aux jeunes. Et ils ont tout de suite marché, tout de suite. Ils ont dit, oui, on est partant. Je crois que 2 jours après, tout le monde connaissait la chanson en néerlandais et ils connaissaient tous la chorégraphie. Et ils se mobilisent aussi autour de cela, parce que c'est vrai, aller le 13 février à la Grand Place faire le flash mob, c'est quelque chose quand même. Ce n'est pas rien, hein, ce n'est pas rien. Et puis, il y a effectivement les boîtes aux lettres, les fameuses boîtes aux lettres VIP, hein, vaincre importants problèmes qui ont été mis en place l'année passée, où les élèves peuvent déposer leurs demandes, leurs craintes, et donc c'est vidé une fois par semaine, et on regarde un petit peu, tiens, ça nécessite tout de suite une intervention, mais chaque cas est traité, de toute façon, même si c'est un truc très banal. On ne dit pas, on ne met pas de côté, on ne va pas dire, ça ce n'est pas important, chaque demande est traitée. Donc ça c'est une chose, et puis il y a maintenant, mais ça c'est suite au prix obtenu à Scola, qu'une formation grain de médiation se mettra en place, d'abord pour les marcheurs de la paix qui sont quand même à la base, et puis pour les délégués co-délégués de classe. Donc cette formation grain de médiation, a comme but que les élèves puissent régler leurs problèmes en autonomie. Donc ils essayent de remédier, de trouver une solution pour leurs disputes, leurs différends, qu'ils essayent vraiment de trouver par eux-mêmes une solution aux problèmes qui se posent. Je vous ai déjà dit, faire disparaître la méchanceté, je n'y crois pas trop. Mais aider quelqu'un à supporter ou à faire face, là j'y crois très fort. Et là c'est notre rôle. Et ça a changé. Très souvent, je crois qu'on n'écoute pas assez nos jeunes. Ils ont aussi des idées et des avis, et on ne peut pas être d'accord, mais on donne alors des arguments pourquoi on n'est pas d'accord. Ça, il faut leur apprendre à argumenter avec des mots, à ne pas être d'accord, mais s'exprimer avec des mots. Mais l'écoute, oui, je crois que c'est important. Oui. Et un conseil d'élève, oui, c'est important.
Voilà, alors encore une fois, grand merci à Sabine Dano. Je tiens à dire, pour m'être rendu sur place, que j'étais assez surpris par l'effervescence créée autour de ce projet. Hein. Il y avait voilà, le prof de gym qui s'occupait de la danse flash mob qui se prépare donc et qui aura lieu le 13 février sur la Grand Place. Il y avait un autre professeur qui, elle, avait pris en charge donc cette formation graine de médiateur initiée par l'Université de Paix. Alors, petite info, donc ce projet a été lauréat du prix de transférabilité à l'issue du 7e forum des innovations en éducation organisé par l'ASBL Scola. Et voilà, c'est un projet qui repose quand même en bonne partie sur l'investissement bénévole d'une série de professeurs. Alors du coup, ça me fait poser cette question, c'est est-ce que ce type de démarche ne devrait-elle pas être intégrée, je vais dire, dans les programmes, comme le soulignait aussi par exemple Benoît Galland en parlant de former les jeunes à des compétences sociales qui faciliteraient les rapports au sein d'un établissement. Chantal, peut-être, est-ce que tu veux réagir, ou Logan ?
Oui, je pense que cela peut être intégré à terme, mais tant que cela n'est pas fait, on a, nous, en tant qu'organisation de jeunesse, un rôle de formateur. Et donc, par exemple, au CEF, on a comme vision, plus tard, en tout cas toujours dans l'optique de notre campagne, de former aussi les élèves pour les faire devenir des élèves référents, afin qu'ils puissent dans leur classe parer au problème du harcèlement quand il arrive, avant même que les adultes ne s'en rendent compte.
Ouais.
Oui, je crois que l'information par les pairs, l'information des jeunes par les jeunes, pour les jeunes, c'est vraiment très précieux. On voit toujours que ça, c'est un vecteur qui est porteur. Ça me paraît vraiment important. Maintenant, je vais me permettre quand même une toute petite remarque par rapport à ce qui a été dit juste en amont. Je crois que c'est important, effectivement, qu'on apprenne aux victimes, entre guillemets, ou à la personne qui est en situation d'être victime d'un harcèlement à réagir. Mais ce n'est pas la seule chose. Je crois qu'il est vraiment, on ne va pas faire reposer le problème sur celui qui est victime d'une violence. Là, ce serait vraiment, c'est un peu comme la violence faite aux femmes. Hein. Souvent, on leur apprend comment elles devraient agir pour ne pas être victimes. Non, je crois qu'il faut aussi apprendre à être plus dans des modèles d'égalité. Des modèles qui ne sont pas des modèles de dominant-dominé, et notamment avec les spectateurs aussi, parce que je crois que les spectateurs d'une agression comme celle-là ne se rendent pas compte qu'ils donnent beaucoup plus d'écho à l'agression. Parfois, il suffit que l'un ou l'autre spectateur se positionne différemment pour que toute la dynamique du groupe change. Et donc, c'est important, je crois, que vraiment on traite les trois pôles et qu'on demande aussi à celui qui harcèle, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de s'exprimer? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça interroge chez lui? Ça me paraît vraiment important que ces trois pôles-là, je le répète, soient interrogés et pas seulement la question, entre guillemets, de la victime, parce qu'alors on loupe toute la question du processus et ça, je crois que ça ne portera pas ses fruits à terme.
D'accord, merci beaucoup. Et une dernière petite question par rapport à donc ce qui a été dit dans cet entretien. Donc elle évoque justement cette nécessité de mettre en place des conseils d'élèves. Moi je me demandais, est-ce que ce n'était pas voilà inscrit dans pas les règlements d'école, mais en tout cas est-ce que c'est pas quelque chose qui est systématiquement mis en place?
C'est quelque chose effectivement de décrétal, donc qui normalement est obligatoire par le décret mission. Toutefois, l'application dans les écoles est un peu elle est appliquée mais n'est pas toujours totalement bien respectée, on va dire. Mais donc du coup pour nous au CEF, on considère que le conseil d'élèves doit absolument exister, d'une part pour porter la voix des élèves, pour ensuite que leur voix soit écoutée et pour répondre après à leurs besoins, et d'autre part aussi pour justement, comme ce sont des acteurs principaux de l'enseignement, ils sont, je pense, les plus à même à mener une réflexion sur ce qu'ils vivent au quotidien. Donc voilà, donc pour nous, à ce sujet, la priorité du CEF, c'est justement de remettre l'élève au cœur du système éducatif à l'avenir.
Ben, on vous souhaite déjà bon courage, bonne chance et bonne continuation, surtout hein, dans ces missions. Voilà, on va essayer de conclure un peu sur tout ce qui s'est dit. Hein. Le débat était très, très, très riche, donc ça va être difficile peut-être de lever tous les points sur lesquels ça mériterait peut-être une autre émission d'une heure. Mais donc, on a surtout souligné l'importance déjà de briser le silence, d'en parler. C'est une problématique sur laquelle il faut informer, éduquer, former. Il y a aussi cette question de l'existence hein, de cet ensemble d'intervenants possibles pour lesquels faudrait faciliter en tout cas une certaine coordination. Aidez-moi peut-être dans cette conclusion, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous auriez vite envie de pointer avant qu'on rende l'antenne?
Mais moi, je voulais féliciter le CEF pour son initiative. Je trouve que c'est extrêmement précieux que des jeunes se prennent en charge. Donc, j'espère que le CEF va prendre de l'ampleur parce que c'est un partenaire avec lequel nous, on aurait vraiment plaisir à travailler.
Merci beaucoup en tout cas à Forjon Aken aussi, qui est l'un de nos partenaires principaux, qui avec lequel aussi nous espérons collaborer encore longtemps. Et nous invitons donc les auditeurs à ne pas hésiter à aller sur notre site internet, donc www.lecef.org, et notre page Facebook CEF Comité des élèves francophones, pour suivre l'évolution de la campagne au cours de l'année. qui s'arrive, qui arrive.
Voilà, qui est dit. Je vais me permettre aussi un petit rappel. Donc, c'est vrai qu'on a évoqué toute une série d'intervenants, de numéros de téléphone, à moins que vous ayez eu un bic à portée de main. J'imagine que c'est un peu difficile de suivre le fil. Donc, on vous suggère de visiter donc, le site inforjeune.eu où l'ensemble de ces informations seront reprises. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Avant de conclure, je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui ont rendu cette première émission possible. Donc avant tout, merci Radio Panique, merci à la communauté française, merci à InfoJeune, à Itinéraire AMO, merci au CEF, et surtout, je tenais à remercier tous ces intervenants que j'ai le plaisir de rencontrer, à savoir donc Benoît Galland, Arnaud Fontaine, Sabine Dano, et encore une fois, je rappelle que toutes les informations seront bien reprises sur le site InfoJeune Laeken. Et pour finir, je vais dire en douceur, parce que la musique soigne aussi les mœurs, on va écouter un dernier morceau qui est le Chapelier Fou, donc un one-man band multi-instrumental qui mêle classique et électronique, et le morceau s'intitule « Les métamorphoses du vide ».
Sur notre radio, radiopanique.org.